Aujourd'hui, le message que je veux vous donner n'est pas de moi. En fait, c'est un sermon qui a été présenté récemment à Charlotte, en Caroline du Nord, par le Dr. Douglas Winnale. Et ça m'est apparu être un sermon de base important et un grand encouragement pour les membres de l'Église. Alors, plutôt que de le traduire mot à mot, je vous le présente simplement dans mes mots, dans les circonstances d'aujourd'hui. Vous savez, on a un travail considérable à accomplir en tant qu'œuvre. C'est pas une mince affaire. On est une toute petite église et on doit annoncer l'Évangile au monde entier. Et l'Évangile sera annoncé au monde entier. Maintenant, on couvre la majeure partie de la planète, comme je vous ai déjà expliqué, par les différents moyens de communication que nous avons. Mais il faut pas oublier qu'au temps de la fin, dans les trois dernières années et demie, les deux témoins vont finir le travail d'annoncer l'Évangile. Alors, jusque-là, nous, on a à aller au plus nombreux endroits possibles, dans le plus grand nombre d'endroits possibles, avec le même message de l'Évangile que le Christ nous a donné, et avec la force que Dieu nous donne. Et nous le faisons. Et nous allons le faire encore plus. Et nous allons avoir de plus en plus d'impact dans le monde, jusqu'au moment où les deux témoins vont donner l'impact final, où dans le monde entier, la terre va, pour ainsi dire, trembler dans ce sens-là, parce que le message de Dieu va être percutant sur toute la face de la terre. C'est Dieu qui nous donne de faire cela. Et à nous maintenant, qui sommes, comme la Bible l'appelle, le tout petit troupeau, Dieu nous donne les outils dont on a besoin pour faire le travail. Et nous donne les moyens pour être capable de réaliser le but qui nous a été tracé. Des moyens précis. Et il les augmente. Et ces moyens-là vont avoir de plus en plus de portée à mesure que le temps va passer, jusqu'à temps que les deux témoins prennent la relève. Le titre du message d'aujourd'hui, 12 outils spéciaux pour accomplir la mission de l'Église. 12 outils spéciaux pour accomplir la mission de l'Église. Parce que nous sommes au temps de la fin. Dieu nous donne particulièrement accès à des outils puissants pour finir le travail. Et dans ce sens-là, Dieu va se manifester de plus en plus puissamment. Il va manifester sa présence au milieu de nous. Un peu comme il l'a fait dans les tout débuts de l'Église originale. Allez à Actes 17. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Et nous allons lire le verset 6. Ici, c'est l'apôtre Paul et Silas qui sont allés prêcher à Thessalonique. Et on voit la réaction des Juifs là-bas qui n'étaient pas contents du message qu'ils entendaient. En fait, ils se sont opposés au message de l'Évangile, comme plusieurs vont s'opposer au message de l'Évangile au temps de la fin aussi. Et regardez au verset 6 ce qu'on dit d'eux. Ils voulaient les trouver, les Juifs voulaient trouver Paul et Silas pour mettre la main sur eux. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, » en parlant de Paul et Silas. Ça veut dire que leur prédication à ce moment-là, elle ne passait pas inaperçue. Les Juifs disaient, « Ces gens-là, là, Paul et Silas et les autres les apôtres, ont bouleversé le monde avec leur message. » C'était pas peu de choses, là. Ça avait un impact majeur. Et ils sont venus ici et Jason les a reçus. Alors, on voit l'impact que l'Église originale avait sur le monde avoisinant à l'époque. Ils ont littéralement bouleversé leur société. Et ça fait partie de notre mission. Parce qu'on doit dire les choses qu'on a à dire au moment où on doit les dire. Et au temps de la fin, Dieu va augmenter la force pour qu'on puisse le faire, pour qu'on puisse proclamer la vérité. Parce que la vérité ne peut pas être nombreuse. Il y a une seule vérité. Et la vérité, comme le Christ dit à son Père au moment de mourir, lorsqu'il est sur le point d'être mis en croix et tout ça, il fait la prière à son Père et il dit, « Ta parole est la vérité. » À son départ pour le trône de son Père, le Christ n'a pas dit à ses disciples, « Bon, je vous abandonne, je vous laisse faire le travail, on se reverra beaucoup plus tard, faites ce que vous pouvez. » Absolument pas. Il n'a pas dit « Je vais revenir plus tard et je vais voir dans quel état vous êtes et ce que vous avez pu réaliser par vous-même. » Absolument pas. Le Christ a fait des promesses précises et le Christ a promis d'être avec son Église jusqu'à la fin. Hein? Et c'est ce qu'il fait actuellement. Et plus on approche de la fin comme telle, plus il va manifester son autorité, sa puissance dans l'Église, parce qu'il veut terminer le travail qu'il a commencé et la mission qu'il a confiée à ses disciples. Il leur a donné, et il nous donne aujourd'hui, des moyens, des outils spéciaux pour l'accomplir, la mission, pour la finir, l'œuvre. Et aujourd'hui, comme je mentionnais dans le titre du sermon, on va voir 12 des outils spéciaux que Dieu donne à son Église pour terminer le travail. Et on va voir comment on peut les utiliser individuellement, chacun de nous dans l'Église, et comment l'Église peut et doit les utiliser au maximum pour qu'on finisse le travail. Parce que vous savez, il faut que notre cœur soit dans l'œuvre. M. Meredith revient souvent avec ça. Pour nous, ça doit être ça, des choses importantes, majeures. On a été appelés à l'Église, pas pour nous-mêmes, mais pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et ce faisant, on a accès au salut et on a accès à la vie éternelle. Alors, ces points-là que je vous dis aujourd'hui, on doit en prendre conscience, y réfléchir, puis travailler avec, apprécier, remercier Dieu. Le premier des outils que Dieu nous donne, c'est que le Christ a promis d'agir dans son Église. Il a promis d'agir dans son Église et par son Église. C'est une promesse. Alors ça, on peut compter là-dessus. C'est le premier outil, puis je dirais le plus important. Parce que la force, elle ne vient pas de nous. Il faut qu'elle vienne du Christ. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Et le verset 19. Regardez ce que le Christ leur a dit ici avant de retourner au trône de son Père après sa résurrection. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Pas ce que les religions du monde allaient inventer, mais ce que le Christ a enseigné et a prescrit. Et regardez la promesse dans la dernière ligne. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et la fin du monde, on sait que ce n'est pas la fin de la terre ou la fin de l'existence humaine, mais la fin de la société humaine telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, le Christ a fait cette promesse, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Christ a agi avec les disciples au niveau de l'Église originale. Et il agit maintenant avec ses disciples, avec ses serviteurs, avec ses ministres. Marc 16. Marc 16, un peu plus loin, et le verset 20. Marc 16 et le verset 20. Regardez ce qu'il dit ici. Ça rejoint le même principe. Et ils s'en allèrent prêcher partout, après que le Christ leur a eu donné cette directive. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Pourtant, il était rendu au trône de son Père à ce moment-là. Mais par sa puissance, par la puissance de son esprit, il travaillait avec eux, il travaillait en eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et il ne faudra pas être surpris dans les temps qui sont devant nous, qu'il y ait davantage de guérisons effectuées par les mains des serviteurs de Dieu. Parce qu'au temps de la fin, les choses vont redevenir un peu comme elles étaient au niveau de l'Église originale. D'ailleurs, vous vous rappelez, si je vous donne simplement quelques exemples du fait que le Christ travaillait avec eux, directement et puissamment. Avant de partir, vous pourrez aller voir ça dans le livre des Actes, mais avant de partir pour le trône de son Père, le Christ a dit aux disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Il dit, « Dans quelques jours, vous allez recevoir une puissance, la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous. » Il leur a promis ça. Il leur a dit, « Allez à Jérusalem, restez là, vous allez recevoir une puissance. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, il fallait qu'ils soient dans un endroit, il fallait qu'ils soient d'un même esprit, il fallait qu'ils soient obéissants. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont reçu ce qui avait été promis par le Christ. Alors, un autre exemple que le Christ agissait dans son Église au début. Vous vous rappelez quand l'apôtre Pierre était emprisonné? Puis qu'à un moment donné, un ange est venu le délivrer de sa prison durant la nuit. Il pensait qu'il rêvait. Les portes se sont ouvertes automatiquement devant lui. Et il a réalisé, à un moment donné, il était rendu à l'extérieur et il a pu s'enfuir. Alors, ça, c'est le Christ qui continuait d'agir parmi les siens pour accomplir son œuvre. Un autre exemple qui est fort de ça, l'apôtre Paul. Quand Dieu l'a appelé, il l'a fait tomber en bas de sa monture. Et Paul est devenu aveugle pendant 3 jours. Et ça a été le moment de changement complet dans la vie de Paul, cet événement-là. Mais c'est qui intervenait? Quand vous regardez le contexte, Paul lui demande « Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? » Puis la voix lui a répondu « Je suis celui que tu persécutes. » Donc, le Christ continuait à travailler avec les siens directement à ce moment-là, au temps de l'Église primitive. Autre exemple, encore de l'apôtre Pierre. Dieu lui a donné d'avoir un songe, d'avoir un rêve, où il voyait une grande nappe hein, avec des animaux impurs et tout ça. Et dans son songe, ça disait « Tu y manges. » Et là, Pierre dit, « J'ai jamais mangé rien d'impur, Dieu, je ne peux pas faire ça, parce que les Juifs connaissaient les lois alimentaires que Dieu avait données. » Mais Dieu avait un autre message à travers ça, parce qu'au même moment, il y avait un soldat romain, un centenier, Corneille, qui a eu lui aussi un songe, puis où Dieu lui disait, « Fais venir Pierre. » Et là, Pierre est allé chez Corneille. C'était pas normal d'aller là, parce que les Juifs ne devaient pas s'associer avec les non-Juifs. Il est allé, et là, il a expliqué que maintenant, Dieu appelait des gens qui ne sont pas des descendants des nations israélites. Dieu ouvrait la porte. Alors, voyez-vous que le Christ agissait avec force, avec puissance, dès ce moment-là, dès le début de l'Église. Hébreux 13, verset 5. Le Christ dit, Hébreux 13, verset 5, pas besoin de vous y reporter, on va aller plutôt dans Deutéronome 31. Hébreux 13, verset 5, ça dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Encore la même promesse pour ce premier outil que le Christ donne à son Église depuis le tout début, à l'effet qu'il allait œuvrer à travers ses serviteurs dans sa petite Église. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Deutéronome 31 et le verset 8. Ici, Dieu parle à Moïse. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Parle à Moïse. « Il sera lui-même avec toi. » Voyez-vous? « Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » La même promesse que le Christ a faite à ses disciples quand il est allé vers son Père, il l'avait fait à Moïse au début. Il dit « Je vais être avec toi. Marche dans mes voies, je vais être avec toi. Ne crains pas. Je vais te donner de réussir ce que je te demande de faire. » Et le successeur de Moïse, c'est qui? C'est Josué. Allez à la page suivante, ou deux, trois pages plus loin, dans Josué 1. On voit que Dieu dit la même chose à Josué lorsqu'il l'a mis en charge des 12 tribus d'Israël à la suite du décès de Moïse. Josué 1, verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. » C'est Dieu qui parle à Josué. « Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Voyez-vous? Et après, il dit, « Bon, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, et ainsi de suite. » Alors, même promesse. Et ça, c'est la base. Et c'est pour ça que c'est le premier moyen ou le premier outil que Dieu donne pour que son œuvre accomplisse sa mission. Deuxième moyen ou deuxième outil que nous avons pour accomplir la mission, en tant qu'Église, puis individuellement aussi. S'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Pourquoi? Pour qu'il s'approche de nous. Parce que ça, c'est clair dans la Bible. Il dit, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Je vous appelle, là, faites ensuite la démarche, et vous allez voir comment je vais vous bénir. C'est exactement ce que Dieu dit. Vous pourrez aller voir dans Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8, c'est là qu'il dit, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. La deuxième partie de la phrase, c'est une promesse. C'est « Approchez-vous de moi, et moi je m'approcherai de vous. » C'est un engagement que Dieu prend. Ça veut dire, et là je vous apprends rien de nouveau, mais c'est quelque chose de fondamental, et avec le temps parfois, avec l'usure du temps, on peut en venir un petit peu à négliger ces choses-là. Mais il ne faut pas. Et si on a négligé un peu, il faut revenir le plus tôt possible à ces pratiques de base quotidiennes chaque jour. Première chose, un temps chaque jour pour prier, pour parler à Dieu, pour le remercier de tout ce qu'il fait, pour le remercier de faire partie de son œuvre, d'avoir été appelé, pour le remercier de tout ce qu'il fait pour son Église actuellement. Et on peut même le remercier pour ce qu'on sait qu'il va faire pour que nous terminions l'œuvre. On peut dire à Dieu, je sais que tu es un Dieu fidèle. Quand tu dis une chose, elle arrive. Alors, merci. Tu as dit que la fin va venir, que tu vas délivrer l'humanité. Merci. Fais-le au plus tôt, parce que les gens souffrent beaucoup. On peut lui parler dans ce sens-là. Alors, il faut chaque jour parler à Dieu, lui faire part de nos inquiétudes, de nos soucis, de nos questions, de toutes nos difficultés. Chaque jour. Et chaque jour, comme on se nourrit physiquement, il faut se nourrir spirituellement de la parole de Dieu. Manger la parole écrite pour qu'elle soit en nous, cette parole vivante. Vous savez, parfois, c'est triste. Des fois, on entend des gens qui, avec le temps, en viennent à écouter beaucoup de télévision, 2-3 heures de télévision par jour. Ou parfois, monsieur, quelqu'un mentionnait que une même personne lisait des romans plusieurs heures par jour. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut à côté de notre appel, à côté de ce qui s'en vient, à côté de la préparation qu'on a à faire pour être prêt lorsque le Christ va revenir? Si nos priorités sont les priorités de Dieu, et ça doit être le cas, nos temps les plus précieux de la journée, c'est nos prières, nos études, et ça chaque jour. Et aussi avec ça, la méditation, c'est-à-dire penser à ce qu'on a lu, penser à ce qu'on voit autour, le besoin que Dieu intervienne. On peut réfléchir sur les sermons qu'on écoute au cours de la semaine. Mon épouse et moi, on prend des sermons au cours de la semaine, puis on fait des études avec ça. Et en plus de nos études personnelles dans la Bible ou dans les brochures et tout ça, et ça nous aide énormément. Et on reste surpris. Parfois, on prend des sermons qu'on a écoutés il n'y a pas longtemps, on les reprend, puis on redécouvre d'autres choses. On dit, est-ce qu'il avait été dit ça? Je ne m'en étais pas rendu compte. Parce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent, qu'on comprend. Dieu ajoute de la compréhension à mesure. Et ça, ça nous aide. Plus on est rempli de la parole de Dieu, plus c'est proche de nous, plus on est convaincu. Ça, ça veut dire, plus on a la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si je me garde du temps chaque jour précieux pour manger cette parole-là, pour m'en nourrir, ma foi est augmentée, automatiquement. Et c'est formidable. C'est pour ça que David disait, « Ta loi est tout le jour l'objet de ma méditation. » Pas parce qu'il allait s'asseoir sur un rocher quelque part puis il pensait toute la journée. En faisant ses activités, comme en faisant nos activités normales, on peut penser aux lois de Dieu, aux choses de Dieu. Ou on peut penser comment telle chose pourrait être changée pour améliorer dans la société autour de nous. Comment moi je peux faire pour m'améliorer par rapport à des choses que je viens de dire peut-être à ma conjointe ou à quelqu'un d'autre qui aurait pu être mieux dit ou plus doucement. Ou vous savez, ça c'est méditer sur les lois de Dieu pour en vivre. Et là j'avance, je me solidifie. Deutéronome 17. Deutéronome chapitre 17. Écoutez, ceux que Dieu appelle sont de futurs rois. C'est vous. De futurs rois, de futures reines. Deutéronome 17. Ici, vous avez les directives que Dieu a données au roi sur Israël. Quand un roi arrivait sur Israël, Dieu lui disait, tu dois faire ceci. Et nous, on est destinés à devenir des rois et des sacrificateurs, des enseignants dans le monde à venir. Alors ça s'applique à nous ici. Deutéronome 17, versets 18 à 20. « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, un nouveau roi qui arrive, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. » Alors voyez-vous, c'était le roi sur Israël, là. Puis Dieu dit pas, « Tu demanderas aux Lévites de te lire la loi, puis tu écouteras sur ton trône. » Non, non. Oui, ça, il devait le faire, parce qu'il y avait les assemblées de sabbat, il y avait les fêtes et tout ça, et il devait faire leurs études et tout. Mais il dit, « En plus, toi, le roi sur Israël, tu vas prendre une copie de la loi auprès des Lévites, et tu vas la copier de ta propre main, mot à mot, au complet. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. » Le roi, vous allez dire, « Oui, il y avait d'autres choses à faire. » Non. Il y avait d'autres choses à faire après avoir fait la chose principale, de lire les choses de Dieu. Parce que les autres choses à faire après, là, c'est là qu'il les appliquait, les lois de Dieu. Fait qu'il fallait qu'il les sache, il fallait qu'elles soient fraîches à sa mémoire. Et il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Et Monsieur Winney suggère, et je vous le suggère aussi, écrivez des choses. Vous n'êtes pas obligé d'écrire toute la Bible. Vous n'allez pas finir avant que le Christ soit revenu. Mais écrivez des choses. Notez des choses dans vos cahiers. Pourquoi vous ne noteriez pas, par exemple, les 10 commandements puis tentez de les apprendre par cœur? Je suis en train de travailler là-dessus là, pour essayer de me mémoriser comme il faut, là, par cœur. C'est pas évident, ça prend le temps que ça prend, mais ça finit par entrer. Les apprendre par cœur, les fêtes, la liste des fêtes de Dieu, ou des passages majeurs de la Bible. Un passage clé qui vous encourage ou que vous voyez que c'est une chose très importante pour Dieu, vous l'écrivez, vous l'écrivez. Moi, ce que je fais, je l'écris, je le réécris. Et parfois, je suis en train de faire d'autres choses, j'arrête une minute, je l'écris encore une fois. Et là, ça imprime, ça imprime. Et à un moment donné, j'ai besoin de m'en rappeler et je m'en rappelle plus facilement parce que je l'ai écrit à différentes occasions. Et voyez-vous, s'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous, c'est ça. Prier, étudier, penser à ce qu'on a étudié. Puis jeûner comme Daniel a fait, puis demander à Dieu de comprendre. Si vous remarquez, il y a un des jeûnes que Daniel a fait parce qu'il voulait comprendre une prophétie. La prophétie, si je me rappelle bien, des 70 semaines. Et il a jeûné pour demander à Dieu. Bien, Dieu lui a répondu. Il lui a donné l'explication de la prophétie des 70 semaines. Et David et Daniel en parlent dans son livre. Dieu lui a répondu. Mais on sait que l'adversaire, lui, ne veut pas qu'on ait le temps de s'approcher de Dieu, ou le moins possible. Alors, il s'organise pour que notre temps soit occupé le plus possible, pour qu'on soit occupé à mille et une choses. Même si parfois ce sont des choses, des bagatelles, des insignifiances, on pense que c'est important, on mène notre journée avec plein de choses comme ça, et parfois il ne nous reste pas assez de temps pour faire les choses essentielles. Il faut faire un ménage dans nos priorités pour ne pas nous laisser être détournés. Troisième moyen ou troisième outil que Dieu nous donne pour accomplir la mission, puis nous autres pour nous préparer au travail qui s'en vient dans le monde à venir, c'est de s'appliquer à observer les commandements de Dieu. C'est simple, hein? S'appliquer à observer les commandements de Dieu. Et vous savez quel effet que ça a? C'est que ça vous aide à garder le Saint-Esprit en vous. Le fait de s'appliquer à observer les commandements de Dieu, ça a pour effet de garder le Saint-Esprit en vous. Jean 14. Jean chapitre 14. Versets 15 à 17. Regardez ce que le Christ dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est simple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et regardez, si on fait ça. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Tant que le monde n'est pas appelé, même les gens qu'on aime autour de nous, ils ne peuvent pas comprendre. Et ça ne donne rien d'essayer de leur faire comprendre, à moins qu'ils demandent à comprendre. Parce que le Saint-Esprit ne leur est pas donné, l'appel n'est pas encore fait. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et ici, les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, la Pentecôte n'était pas arrivée, donc le Saint-Esprit était avec eux, autour d'eux. Comme le Saint-Esprit est avec quelqu'un qui commence à venir à l'Église et qui commence à observer les commandements de Dieu, et plus tard, quand la personne se fait baptiser, après, Dieu place son Saint-Esprit dans la personne. Jean 16, juste un peu plus loin. Jean 16, verset 13. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire, entre autres? Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait dans chacun des appelés. À mesure qu'on se met en marche pour obéir à Dieu, le Saint-Esprit nous aide de comprendre ce qui est écrit dans la Bible, ce qu'on ne comprenait pas avant. Ce qu'on ne comprenait pas avant. Car il ne parlera pas lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera, les choses à venir. Et là, on peut comprendre les choses à venir, c'est-à-dire les prophéties. Autrement, les prophéties sont fermées, comme elles étaient pour Daniel, avant que Daniel jeûne et qu'il demande à Dieu d'ouvrir ses yeux pour comprendre le sens d'une prophétie en particulier. Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on s'applique à observer les lois de Dieu, à les mettre en pratique. Alors, Dieu répond de cette façon-là. Quand il voit qu'on continue à se repentir, régulièrement, à changer, et qu'on s'en va vers le baptême, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, ou qu'on tient à respecter notre engagement de baptême, pour ceux qui sont baptisés. Parce que le repentir n'est jamais fini. Au moment de notre baptême, on n'est pas parfait. Au contraire, on est lavé de nos fautes, mais là, on commence le vrai combat spirituel profond pour changer en tout et partout dans notre vie. Et vous savez, Acte 5, 32, pas besoin de vous y reporter, mais dans Acte 5, 32, l'apôtre Pierre dit que Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Pas à ceux qui sont parfaits, on n'est pas parfait personne, mais à ceux qui lui obéissent, qui s'efforcent de lui obéir, qui demandent son aide pour être capable de le faire. Voyez-vous? Alors ça, c'est le troisième moyen que Dieu nous donne. Observer ses commandements pour avoir son Saint-Esprit et le garder. Parce que sans son Saint-Esprit, il n'y a pas de vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est le dépôt de la vie éternelle en nous. Et si vous cessez d'obéir, vous avez de moins en moins de Saint-Esprit et vous risquez de le perdre. Malheureusement, dans l'histoire, plusieurs ont suivi ce chemin-là et ont perdu le Saint-Esprit. Au contraire, nous, il nous faut nourrir chaque jour le Saint-Esprit. Demander chaque jour à Dieu qu'il nous en donne une quantité nouvelle et de l'utiliser. Comment est-ce qu'on utilise le Saint-Esprit? Demander à Dieu de nous donner la sagesse de vivre selon ses lois. Et quand j'essaie de faire du bien à quelqu'un, quand je m'efforce de vaincre une faiblesse, je demande à Dieu de faire à travers moi par sa force. Je dis au Christ de vivre en moi, de lutter en moi. Lui, le chef de l'armée de l'Éternel. Et ce faisant, j'utilise son Saint-Esprit. Voyez-vous? Et j'en redemande d'autres parce que je l'ai utilisé pour ces combats-là ou pour faire du bien autour et ainsi de suite. Alors, il faut nourrir chaque jour le Saint-Esprit puis le laisser nous guider. Parce que la Bible, encore là, est très claire là-dessus. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, dit une petite phrase, « N'éteignez pas l'Esprit. » Il y a des gens, j'ai déjà entendu, que parce qu'il avait eu l'Esprit un jour, qu'il l'avait pour toujours. C'est pas vrai. C'est encore un mensonge de l'adversaire. Parce qu'on doit faire quelque chose avec. C'est un peu comme la parabole des mines ou les autres paraboles que le Christ donne. Si on ne fait rien avec, on le perd. Le Christ a dit, ôtez à celui qui avait une seule mine, mais qui n'a rien fait avec, ôtez-la à lui et donnez-la à celui qui a fait quelque chose avec les mines qu'il avait. Alors, on peut perdre le Saint-Esprit. Alors, c'est capital de l'avoir, le Saint-Esprit, de le garder, de l'utiliser. Et allez, Romains 8, ça vaut la peine. Romains 8. Vous savez, le Saint-Esprit, avec ou dans quelqu'un, c'est ce qui fait de la personne qu'elle est chrétienne ou non. C'est ce qui fait que quelqu'un est chrétien ou non. Romains 8, verset 9. Pour vous ne vivez pas selon la chair, selon les convoitises charnelles, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Même si la personne parle du Christ 20 heures par jour, même si elle faisait des dons aux pauvres à satiété, même si elle donnait sa vie, pour ainsi dire, si elle n'a pas l'Esprit du Christ, qui s'obtient lorsqu'on se repent d'avoir transgressé les lois et qu'on veut ne plus les transgresser et vivre autrement, si la personne ne fait pas ça, elle n'a pas le Saint-Esprit. Même si parfois elle peut avoir les dehors gentil de quelqu'un qui veut faire du bien. Et elle peut faire un certain bien, mais ce n'est pas le bien selon Dieu, ce n'est pas la justice de Dieu. Quatrième outil pour accomplir la mission. Ça a leur rapport aussi au Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit guide dans la vérité. Le Saint-Esprit guide dans la vérité. J'ai touché un peu à ça tantôt quand j'ai dit le Saint-Esprit nous montre à mesure. Plus on s'efforce de pratiquer les lois de Dieu, plus Dieu donne son esprit et mieux on comprend les paroles qui sont écrites ici et plus on comprend la prophétie. C'est exactement ce qui est arrivé à M. Armstrong. Que Dieu a appelé dans des conditions difficiles et qui a dû montrer à Dieu qu'il voulait à tout prix lui appartenir et se soumettre à lui. À un moment donné, M. Armstrong a réalisé qu'il était coupable, responsable de la mort du Christ, et il a dit à Dieu, « Je suis rien, je suis coupable de la mort de ton Fils, je ne vaux rien. Si tu veux faire quelque chose avec moi, fais-le, je t'appartiens, j'ai été racheté. » Et Dieu a travaillé avec lui. Et M. Armstrong a redécouvert 18 vérités de base du christianisme original qui avaient été perdues en cours de route. 18 vérités de base. Parce que quand M. Armstrong est arrivé à l'église de Sardes, on voit dans les textes que l'église de Sardes, elle était morte. Il n'observait plus les fêtes, Ils n'annonçaient plus l'Évangile. C'était une église qui était mourante. Il y avait simplement quelques hommes en vêtements blancs, comme le Christ dit, qui lui appartenaient. Lorsque M. Armstrong est arrivé à l'église de Dieu, qui s'appelait l'église de Sardes à cette époque-là. Mais M. Armstrong a jeûné, a prié, a étudié à fond et a cherché à obéir à Dieu. Il a cherché à comprendre, comme Daniel a cherché à comprendre. Et Dieu lui a révélé les choses qu'il devait comprendre pour ensuite les enseigner. Et nous en sommes les bénéficiaires, dont les 18 vérités que je vous parle. Comme par exemple, il y avait les lois sur la santé, les dîmes, le gouvernement divin qui est théocratique, de haut en bas. On ne vote pas dans l'Église de Dieu pour élire les ministres ou les dirigeants de l'Église. Sans ça, c'est contraire aux lois de Dieu et aux voies de Dieu. Alors, Dieu a révélé tout ça à cette toute petite église par M. Armstrong et on en bénéficie aujourd'hui. Alors, ça, c'est un autre moyen que Dieu a donné pour que nous fassions la mission, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, et c'est le quatrième moyen, guide dans la vérité. Et il continue de le faire. Comme il continue de le faire par ses serviteurs actuellement, quand M. Meredith ou M. Ames comprennent davantage là où on est rendu dans l'accomplissement de certaines prophéties. Et qu'il voit venir certains autres éléments. Parce que Dieu révèle à ses serviteurs ses secrets, comme c'est mentionné dans la Bible. Il révèle à ses serviteurs les choses qu'il va faire. Cinquièmement, ou cinquième outil, comprendre l'identité des nations modernes d'Israël. Comprendre l'identité des nations modernes israélites. Il y a des nations sur la face de la terre qui sont les descendants des 12 tribus originales, les fils de Jacob. Et ces nations-là sont réparties sur la face de la terre. Il faut savoir qui elles sont. On peut aller dans Matthieu 10. On voit la directive qui a été donnée ici. Matthieu 10. Et le verset 7. Regardez ce qu'il dit. Allez prêcher et dites... verset 6, pardon. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, pour que le Christ dise « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël », il fallait qu'il sache où qu'ils étaient, où elles étaient, ces tribus-là. C'est clair. Et quand le Christ dit dans un autre passage « Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que je serai revenu », ça veut dire qu'on sait où elles sont, les villes d'Israël. Ce n'est pas juste la nation juive dans le pays qu'on appelle aujourd'hui Israël, mais ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, et ainsi de suite. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, et ainsi de suite. Alors, une des premières choses, et ça c'est important de le mentionner, quand il y a eu l'apostasie dans l'Église, une des premières choses que les deux jeunes hommes qui assistaient M. Tikach ont fait, ça a été de mépriser puis de rejeter la compréhension de qui sont aujourd'hui les descendants modernes des nations d'Israël. Ça a été une des premières choses qu'ils ont rejetées et dont ils se sont moqués. C'est ce qui s'est produit dans l'Église. Et la deuxième chose qu'ils ont rejetée, puis ça va avec ça, c'est qu'ils ne voulaient plus parler de prophétie biblique. Pas au début, là. Ça a pris un certain temps. Mais après un certain temps, le chat est sorti du sac, pour ainsi dire. Et là, ils ont dit, on ne peut plus prêcher de prophétie biblique. Vous savez pourquoi? C'est trop négatif. Parce que ça parle de choses malheureuses qui vont arriver. Mais on n'a pas le choix. Dieu nous a dit, avertissez les nations de ce qui s'en vient, c'est votre rôle, c'est votre responsabilité. Et si vous ne le faites pas, le sang des nations est sur vos épaules. On a un message à livrer et on ne peut pas reculer devant ça. Mais on dit non, c'est trop négatif. Parlons plutôt d'amour. Parlons de choses gentilles, de choses jolies. On parle d'amour, oui, mais de vrai amour de Dieu. Mais on a une mission à accomplir et on ne peut pas s'en éloigner. D'ailleurs, quand vous allez voir dans Apocalypse 1, verset 3, qu'est-ce que le Christ dit? Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et entend les paroles » de quoi? De la prophétie. « Heureux celui qui lit et entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. » Oui, parce que ces choses-là, en ce qui nous concerne, sont proches d'arriver. Alors, un des moyens que Dieu nous donne pour accomplir la mission et pour nous préparer, nous, individuellement, c'est de comprendre l'identité des nations israélites modernes, les descendants des douze tribus. Et le sixième point est un peu en rapport avec ça. Parce que grâce à la connaissance de l'identité des nations israélite moderne, là, on peut mieux comprendre la prophétie. Ben oui, si on sait quelles sont les nations israélites modernes et où elles sont, quand la Bible en parle, et parfois en utilisant le nom de l'ancêtre, on sait qu'est-ce qui va leur arriver lorsqu'on décrit ce qui doit leur arriver au temps de la fin. Alors, Dieu nous donne de mieux comprendre la prophétie à partir de là. Et ça nous aide à accomplir la responsabilité que je vous dis qui est la nôtre, d'avertir le monde. Avertir le monde, là, c'est le témoignage dont le Christ parlait dans Matthieu 24. Cette bonne nouvelle sera annoncée au monde entier. Pourquoi? Pour servir de témoignage. OK? La bonne nouvelle, comme de quoi il y a un nouveau monde qui s'en vient, sous la direction du Christ, la libération de l'humanité. Cette bonne nouvelle-là, elle va être annoncée comme témoignage, pas pour convertir l'humanité. L'humanité sera convertie après le retour du Christ, au moment où tous les êtres humains seront appelés. Là, pas avant. Avant, c'est un témoignage simplement, et c'est l'Église qui le fait. Ce n'est pas aux membres de partir de porte en porte pour essayer d'annoncer l'Évangile, absolument pas. On répond aux questions, s'il y a des questions, et on, par notre façon de vivre, parfois ça peut susciter des questions, on répond aux questions simplement, sans chercher à aller plus loin. Et si les gens veulent savoir, là, on peut donner davantage d'explications. Ézéchiel 33. Regardez notre fameuse mission ici. Ézéchiel 33. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. « Et toi, fils de l'homme, » il parle ici à la sentinelle. Et l'Église, aujourd'hui, joue le rôle de cette sentinelle qui doit avertir le monde de ce qui s'en vient et qui doit dire au monde, « Il faut que vous changiez si vous voulez éviter les choses qui viennent. » »« Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. » Et une sentinelle, c'est quelqu'un qui avertit. « Sentinelle sur la maison d'Israël, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Ça, c'est notre travail. « Quand tu dis aux méchants, méchants, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Pourquoi? Parce que tu auras accompli le travail de soutenir cette œuvre, d'avertir le monde de ce qui s'en vient pour donner la chance à ceux que Dieu appelle de pouvoir se convertir et changer. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 19. Regardez comment c'est clair ici. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Voyez-vous l'importance de la prophétie encore? C'est l'apôtre Pierre qui en parle. La parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Pourquoi il dit ça? Parce que la prophétie annonce la libération de l'humanité et la lumière des nations qui va venir, jusqu'à ce que vienne le jour qu'il paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, jusqu'à ce que le Christ revienne. Voyez-vous l'importance de la prophétie, l'importance de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ce que Dieu annonce d'avance. Et comme j'ai dit tantôt, c'est marqué dans Amos 3, verset 7, « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Et c'est ce qu'il fait au temps de la fin pour que ses serviteurs annoncent ces choses-là au monde. Septième moyen maintenant, c'est que Dieu nous a donné et nous donne de comprendre un concept qui n'était pas là dans l'Ancien Testament, qui n'était pas là sous l'Ancienne Alliance, de comprendre le concept de l'Israël spirituel. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait appelé une nation physique, les 12 tribus d'Israël, les fils de Jacob, c'est une nation physique. Mais dans le monde actuel, sous la Nouvelle Alliance, Dieu est en train de bâtir un Israël spirituel. Les non-israélites, et c'est ça le nouveau concept, les non-israélites peuvent aussi faire partie de la famille de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui parlent le sang ne sont pas descendants des tribus modernes d'Israël, que ce soit des Chinois ou d'autres nations qui n'étaient pas originellement israélites, peuvent maintenant faire partie du peuple de Dieu. Regardez Galates 3, ça vaut la peine. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Et vous allez voir, c'est clair. Galates chapitre 3, versets 28 et 29. Versets 28 et 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Que vous soyez juif, ou que vous soyez israélite, ou que vous soyez grec, ou chinois, ou japonais, ou quelque autre nation que ce soit qui n'est pas israélite, si vous êtes appelé par Dieu à faire partie de sa famille, vous êtes maintenant co-héritier avec le Christ si vous persévérez jusqu'à la fin, au même titre que les autres. Et ça, c'est tellement encourageant. Je sais que quand on dit ça dans les assemblées, dans les conférences du monde de demain, à des gens qui ne sont pas descendants d'Israélites, il y a un grand sourire sur leur visage, comme M. Winnell disait. Parce que là, ils disent, moi aussi, je peux être appelé et faire partie de l'Israël spirituel. Mais oui! Et quand on regarde dans Apocalypse 5, verset 9, je pense, il dit qu'au temps de la fin, ceux qui vont régner sous le Christ, il dit, tu as fait d'eux des dirigeants sur les nations, des gens de toute langue, tout peuple, toute nation. Pourquoi? Parce que ça, c'est Israël spirituel. C'est qui est formé de gens de toutes nations. Et c'est très encourageant. Le plan de Dieu, il est grand et il est inclusif. Il est inclusif. Huitièmement, le huitième outil que Dieu nous donne à nous autres individuellement et à l'Église, c'est de comprendre ce qu'est le péché. C'est une des choses que Dieu nous montre quand il nous appelle. Hein? Il nous montre ses lois puis il nous montre en quoi nous avons péché et en quoi nous devons changer. Et il nous donne de comprendre ce qu'est le péché pour être capable de le vaincre avec sa force et aussi pour être capable de l'expliquer en tant qu'Église. Et d'ailleurs, on voit dans 1 Jean 3, verset 4, la définition très simple, très claire du péché. Le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Et ceux qui prétendent que la loi de Dieu est abolie, il va falloir qu'ils arrachent des pages de leur Bible. Comme quelqu'un m'a dit dernièrement, la loi est abolie. Je dis, ça ne se peut pas, monsieur, que la loi est abolie. Le Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Est-ce que ça peut être plus simple et plus clair que ça? Là, je peux ne pas l'accepter, ça c'est une chose. Mais dire que ça n'existe pas, c'est une autre. C'est de ne pas reconnaître la réalité ou de ne pas vouloir l'accepter, parce que c'est noir sur blanc. Alors moi, ma réponse était donnée à partir de là. La balle est dans le camp de l'autre côté. Mais je ne peux pas dire que la loi a été abolie. Le péché est la transgression de la loi. Puis un des outils que Dieu nous donne, individuellement et en tant qu'Église, c'est de comprendre ce que c'est. On regarde la loi, et dans le miroir de la loi, on s'analyse et on travaille pour changer. On comprend ce qu'est le péché, puis on comprend ses conséquences de plus en plus aussi. Ésaïe 59. Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59. Regardez une des conséquences du péché, en plus de causer la mort éternelle. Ésaïe 59, verset 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Comprenez-vous que tant et aussi longtemps que je continue à pécher, que je ne fais pas d'effort pour changer, Dieu ne répond pas à mes prières. C'est clair là-dessus ici. Dieu dit noir sur blanc encore. Alors, nous comprenons ce qu'est le péché et on comprend ses conséquences. C'est mal de trop boire, c'est mal de mentir, c'est mal de voler, de commettre l'adultère, c'est mal de ne pas observer le septième jour de la semaine que Dieu lui-même a décrété comme étant son saint sabbat. C'est une transgression aussi. Et je précise ceci, c'est que les chefs religieux de l'époque, l'époque d'Ésaïe puis de l'Ancien Testament, ils ne pratiquaient pas la justice de Dieu. Et ils ne l'enseignaient pas non plus. C'est pour ça que Dieu a suscité des prophètes comme Ésaïe pour aller leur parler à eux autres, aux chefs religieux et aux membres des nations d'Israël pour leur dire ce qu'ils avaient à leur dire. Dieu a suscité des prophètes comme Ésaïe pour le faire. On le voit dans Ésaïe 58. Vous allez voir. Les chefs religieux ou les sacrificateurs de l'époque ou les enseignants de l'époque ne le faisaient pas. À l'époque du Christ, ils ne le faisaient pas non plus. Comment le Christ a-t-il appelé les scribes et les pharisiens puis les enseignants de l'époque? Il a dit « hypocrites que vous êtes » et ainsi de suite. vous enseignez des choses qui sont pas bibliques, qui sont pas vraiment la justice de Dieu. C'est de cette façon-là qu'il leur a parlé. Et je suis certain que si le Christ revenait aujourd'hui, il dirait la même chose à certains dirigeants religieux, parce qu'ils n'enseignent pas ce que la Bible dit. Au contraire, ils enseignent souvent que les lois sont abolies, que les fêtes de Dieu sont abolies, que le sabbat du septième jour n'est plus valable, que c'est une fête juive, alors que c'est une fête de Dieu et non pas des Juifs. Alors, voyez-vous, ça donne une image. Mais regardez Ésaïe 58, versets 1 et 2. Dieu a suscité des prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, parce que les chefs religieux ne faisaient pas leur travail. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, toi qui es mon prophète. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple, quoi? Ses iniquités, qui sont les transgressions des lois. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Mais ils ne s'approchent pas de moi. Ils font ce qu'ils veulent. Voyez-vous, c'était comme ça à l'époque et c'est encore comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que Lévitique 26 et Deutéronome 28 n'ont pas changé. Lévitique 26 et Deutéronome 28, c'est deux chapitres qui décrivent les bénédictions que Dieu donne lorsqu'on obéit à ses lois ou les malédictions que Dieu permet ou envoie lorsqu'on désobéit à ses lois et qu'on se détourne de lui. Et ça va s'appliquer particulièrement à nos nations dans les brèves années qui sont devant nous. Ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu n'a pas changé. Et Dieu n'a pas changé non plus. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on voit dans le monde à venir que le sabbat va être observé, que les fêtes vont être observées. La loi ne sera pas changée. La loi est le reflet du caractère de Dieu. Et Dieu ne change pas. Et ça, c'est ce qui va apporter le bonheur sur la terre. Si vous obéissez, il y a des bénédictions. C'est ce que Lévitique 26 et Deutéronome 28 disent. Si vous désobéissez, il y a des malédictions. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour la nation, c'est vrai pour nous individuellement. Neuvième moyen que Dieu donne à son Église, et particulièrement au temps de la fin, pour accomplir la mission. Une immense porte ouverte pour prêcher l'Évangile. Ça, c'est un des moyens majeurs qu'il nous donne. Une immense porte ouverte pour prêcher l'Évangile. Apocalypse 3, verset 20. La promesse que Dieu a faite à l'Église de Philadelphie. Apocalypse 3 et le verset 8. « Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. » Oh, que l'Église, elle est petite, elle a peu de puissance. Même sous M. Armstrong, même s'il y avait à l'époque plusieurs milliers de membres, ça restait une toute petite Église comparée au reste de l'humanité. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé, quoi? Ma parole. Tu n'as pas enseigné d'autre chose. Tu n'as pas dit que ça n'existait plus, les lois de Dieu. Tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et on sait par les textes ailleurs que lorsqu'il parle d'une porte ouverte dans ce sens-là, c'est l'occasion d'enseigner l'Évangile ou d'annoncer la vérité, d'annoncer ce qui vient, d'expliquer les prophéties. D'accomplir la mission d'Ézéchiel, la mission de la sentinelle. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Jusqu'au jour où Dieu va la fermer et où on ne pourra plus annoncer l'Évangile, mais à ce moment-là, ce sera terminé. Et ce sera le travail des deux témoins qui va se faire à l'époque, à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si vous réalisez que c'est à notre époque que Dieu a donné à sa petite Église cette incroyable porte ouverte. C'est à notre époque. Au fur et à mesure que les moyens de communication modernes se sont développés. Ça n'a pas été donné à l'époque de Jésus-Christ ou à l'époque des disciples après. Ça n'a pas été donné au cours de l'histoire. Ça a été donné au moment de l'Église de Philadelphie et encore à notre époque. Même si nous sommes à l'étape de l'Odyssée, la dernière étape, il doit y avoir un reste de l'Église de Philadelphie qui continue le même travail, la même œuvre avec intensité. En suppliant Dieu de lui aider de terminer. Au fur et à mesure que les moyens de communication modernes se sont développés, avez-vous remarqué, son Église était là. Ça, c'est au temps moderne. Là. Avant la radio n'existait pas, la télévision n'existait pas, Internet n'existait pas. Là. Mettons ça dans le contexte. M. Armstrong a été appelé au début des années 30. Tout de suite, M. Armstrong est allé à la radio dans les années 30 avec un message puissant et ça a apporté beaucoup de fruits. La radio commençait, l'apôtre de Dieu était là. C'est pas un hasard. Il fallait qu'au temps de la fin, il y ait une porte ouverte, immense, pour prêcher l'Évangile. Tout de suite après, vous avez eu les possibilités avec la presse écrite. On a publié à certains moments donnés jusqu'à 7 millions, un peu plus que 7 millions de pures vérités par mois qui allaient à travers le monde dans 7 langues, si ma mémoire est bonne, 7 langues différentes à l'époque. Alors, on a utilisé, comme pour ainsi dire, au maximum la presse écrite dans les moyens qu'on avait à l'époque pour aller à travers le monde. Quand la télévision est arrivée, par après, M. Armstrong est allé tout de suite, dans les années 50, 60, à la télévision. Voyez-vous, les moyens de communication modernes sont apparus. Dieu a ouvert la porte pour ça. Et dans ça, il a ouvert la porte pour qu'on prêche l'Évangile. Au moment où on était rendu, Dieu a permis que ça, ça existe, pour que l'œuvre puisse s'accomplir. Et ça a augmenté la télévision. Et on est encore actuellement présent beaucoup sur la télévision. On est sur environ 300 réseaux ou canaux différents à travers le monde maintenant. Et ça va en augmentant. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Les ordinateurs. Et aussitôt que M. Armstrong a vu les ordinateurs, qui étaient énormes à l'époque, M. Armstrong a dit, je me rappelle, il nous faut ça parce que ça va nous aider à faire l'œuvre. Beaucoup de gens ne voyaient pas l'utilité de ça quand on ne connaît pas la bête en question. Mais M. Armstrong, inspiré par Dieu, voyait beaucoup plus loin, lui. Et regardez ce qu'on fait aujourd'hui avec les ordinateurs dans l'œuvre de Dieu. Et ce qu'on a fait depuis le début. Et je vous rappelle encore à ça, comment les moyens de communication sont arrivés au moment où Dieu a ouvert la porte à ses serviteurs pour annoncer l'Évangile à grande échelle au temps de la fin. Ordinateur, Internet, les années 80-90, et ça a augmenté. Et aujourd'hui, notre message va partout sur la face de la terre. On a iPad maintenant, iPhone, Twitter, Facebook, et on est présent partout là-dessus. En plus des moyens de transport qui sont énormément facilités. M. Winney, l'an passé, a, en 21 jours, fait le tour du globe. A visité des églises un peu partout à travers le monde, en 21 jours. Prêché des conférences du monde de demain, prêché dans les églises, rencontré des gens, conseillé, et ainsi de suite. Ce que l'apôtre Paul n'aurait jamais pu faire. Ça, en 21 jours, l'apôtre Paul pouvait peut-être se changer d'endroit en bateau à une courte distance, mais pas faire le tour de la terre. Alors, voyez-vous, au temps où on est rendu, Dieu donne les moyens pour que nous soyons capables de le faire. La porte, elle est là et elle est ouverte. Et on a un message qui va bientôt, comme au début, ébranler le monde. Le message va bientôt ébranler le monde. Et c'est pas pour rien qu'à la fin, quand les deux témoins sont tués, que les gens partout sur la terre s'envoient des cadeaux, comme c'est écrit dans la Bible. Parce que ce message-là les a troublés, les a dérangés. Ce message-là qui aura duré pendant 3 ans et demi, où ils se seront fait dire, vous devez changer, vous transgressez les commandements de Dieu, vous rejetez le Dieu créateur de l'univers. Et quand ces témoins-là seront mis à mort, la Bible dit que les gens vont le voir et vont s'envoyer des cadeaux. Pourquoi ils vont le voir? Parce que la technologie va le permettre. Voyez-vous comment Dieu fait que les choses arrivent au moment où lui veut qu'elles arrivent pour que l'Évangile soit publié avec pleine intensité au temps de la fin. Dixième moyen que Dieu nous donne maintenant, c'est que l'Église peut nourrir le petit troupeau de Dieu. L'Église peut nourrir le petit troupeau de Dieu. Dieu nous fournit les moyens pour le faire par les dîmes, par les offrandes que les gens nous donnent. On a des CD, on a des DVD qu'on envoie aux églises qui n'ont pas de ministre, aux gens qui sont isolés, ou aux églises qui ont un ministre simplement de temps à autre. On a les cours de Bible qui sont disponibles, les brochures, les émissions de télévision, les clubs d'orateurs qui aident nos hommes, les sites Internet en plusieurs langues où on peut trouver les sermons, toutes les publications d'église et ainsi de suite. Et tout ça, c'est gratuit. Et Dieu permet qu'on puisse le faire, le mettre à la disposition du monde, bien sûr, mais de l'Église aussi, pour aider le peuple de Dieu à grandir. Je ne sais pas si vous réalisez une chose. Vous avez des Bibles, là. Je vois, tout le monde a sa Bible autour de la table pour l'Assemblée de Saba. Au Moyen Âge, si on vous avait pris avec le livre que vous avez devant vous, vous auriez pu être mis à mort. Les gens étaient mis à mort au Moyen Âge parce qu'ils avaient des Bibles, ceux qui en avaient. Alors, pour vous montrer à quel point la vérité qu'on a entre les mains, elle est précieuse. Et pour nous, il ne faut pas la prendre pour acquise. Ça nous est donné, oui, parce que Dieu permet qu'on vive à une époque d'abondance, de liberté, où on peut avoir accès à ces choses-là. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Même il n'y a pas si longtemps, parce que je me rappelle mes parents. Mes parents ont vécu à l'époque où les prêtres et les chefs religieux disaient, leur défendaient de lire la Bible. Leur défendaient de lire la Bible. C'était quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et il disait, si vous lisez la Bible, vous allez devenir tout confus. Confus selon eux. Mais en lisant la Bible, on voit ce que la Bible dit vraiment et non pas ce que les autres disent que la Bible dirait. Ça, c'est différent. Alors, voyez-vous, on est dans une situation idéale. Nous avons la possibilité d'avoir plusieurs Bibles, si on veut. Aujourd'hui, Dieu nous donne une incroyable période de paix, d'abondance et de ressources de toutes sortes pour faire l'œuvre et pour croître spirituellement. C'est un des moyens que Dieu donne pour nourrir son Église. Onzièmement, nous avons l'Université Living, qui fait un beau travail. Un petit peu comme Paul voulait que Timothée entraîne des enseignants fidèles après lui. Vous pourrez aller voir dans 2 Timothée 2, versets 1 et 2. 2 Timothée 2, versets 1 et 2. Et ça s'est toujours fait comme ça dans l'Église. Ceux qui étaient des ministres enseignaient d'autres à devenir ministres et les préparaient à aller enseigner. Jésus-Christ a mis 3 ans et demi à enseigner ses disciples. Si on regarde dans l'histoire, Samuel et Élie ont eu ce que la Bible appelle des écoles de prophètes, c'est-à-dire des écoles d'enseignants de la Bible. Donc, pour enseigner la Bible, il fallait qu'eux-mêmes soient au point de départ, entraînés, enseignés. Et l'Université Living, pour votre information, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais elle a 5 ans maintenant. Et cette année, on a environ un peu plus que 200 inscrits à l'université actuellement. Quelques-uns des étudiants sont sur le campus, d'autres prennent les cours à distance par Internet. Si vous regardez l'histoire d'Esdras, par exemple, Esdras est un scribe, captif à Babylone. Il a été envoyé à Jérusalem pour rétablir les lois de Dieu et pour rétablir la culture de Dieu. Mais il n'a pas fait ça comme venant de nulle part, là. Cet homme-là s'était préparé. Vous pourrez aller voir dans Esdras 7, verset 10. Esdras 7, verset 10, c'est écrit, « Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. » Avant d'être envoyé par Dieu là-bas, il avait mis son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Vous et moi, là, on regarde vers le futur. Hein? Le monde dans lequel on vit ne nous attire plus. Il n'y a rien à attendre de ce monde-là, mais il y a tout à attendre du monde à venir. Pas simplement égoïstement pour nous, là, mais pour la libération de toute l'humanité, pour qu'enfin les gens soient libérés de leur chaîne actuelle. On regarde vers le futur et on se prépare. Nous nous préparons. Dernier outil maintenant, 12e outil que Dieu utilise pour accomplir son œuvre. Et c'est un outil qui est extrêmement précieux à ses yeux. C'est vous. C'est vous individuellement, chacun et chacune d'entre vous. Chacun et chacune de ceux que Dieu a appelés. Et que Dieu décrit comme étant la prunelle de ses yeux et sur qui il a les regards constamment. Oui, parce que c'est avec eux qu'il fait la préparation de l'équipe pour bâtir le monde de demain. C'est pour ça que ça a tellement d'importance à ses yeux. Dieu vous a attiré au Christ et le Christ lui-même vous a choisi individuellement. Jean 15, un dernier verset. Jean chapitre 15 et le verset 16. C'est le Christ qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il n'y a pas personne de nous qui est venu à l'Église parce que de nous-mêmes, on a voulu d'abord venir à l'Église. Si on est venu, c'est parce que Dieu nous a attirés au Christ. C'est ce qu'il mentionne dans Jean 6, 44 et Jean 6, 65. Alors, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais parmi tous les appelés que Dieu a appelés, il dit, mais moi, je vous ai choisi. Voyez-vous, c'est le Christ. Chacun de vous individuellement. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que vous viviez selon mes lois, que vous rejetiez le mal, la transgression des lois, et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et la principale chose qu'on demande à notre Père en son nom, c'est que son règne vienne. À sa gloire, à la gloire de notre Père, puis pour le bien-être de l'humanité. Puis pour nous qu'on puisse mieux servir encore dans le monde à venir, qu'on apprenne maintenant à servir malgré que nous sommes rien. Parce que voyez-vous, il y a une partie de la mission de l'Église, c'est que nous soyons prêts à régner. Et ça, ça a une portée non seulement dans le monde à venir, dans le premier millénaire ou dans le 100 ans qui va suivre le millénaire, mais pour l'éternité ensuite, si vous y pensez. Ça a une portée éternelle ce que nous, on est en train d'apprendre à travers ça. Alors, voilà les 12 outils principaux que Dieu nous donne en ce moment pour accomplir son œuvre et pour nous préparer à régner. Alors, préparons-nous au retour de plus en plus proche de notre grand roi et sauveur Jésus-Christ.